Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier Françoise de m'avoir invité, et puis bien sûr le Collège de France de m'accueillir ici. Ce que je voulais aussi, bien sûr, vous remercier d'être venu, et puis vous souhaiter une bonne année 2025. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est la nature de l'énergie noire, explorer un peu la nature de l'énergie noire, mais via la perspective des simulations cosmologiques. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous convaincre de la nécessité d'utiliser les simulations numériques, les simulations numériques pour comprendre la nature de l'énergie noire. Bon, j'espère vous réussir à vous convaincre, puisque sinon le reste n'aura que peu d'intérêt. Si je réussis à vous convaincre, dans la suite, je vais expliquer les méthodes pour, c'est la partie un peu technique sur les méthodes pour réaliser des simulations numériques. Ensuite, après, on verra les empreintes, on verra des résultats issus des simulations numériques, donc les empreintes de l'énergie noire sur la formation des grandes structures et les empreintes de quelques théories alternatives de la gravité sur la formation des grandes structures, et on finira par une ouverture. Donc l'idée générale, donc on va réviser un petit peu ce que vous avez déjà vu en fait avant les vacances. Ce qu'il y a d'intéressant avec la relativité générale, c'est que l'univers devient un outil physique à part entière, un objet physique à part entière, grâce à la relativité générale. Si on applique le principe cosmologique, donc c'est-à-dire on suppose que l'univers est homogène et isotrope, eh bien alors on peut calculer l'évolution du facteur d'échelle, donc A de T. Donc le facteur d'échelle, c'est le facteur multiplicatif qu'on peut appliquer à toutes les distances et qui permet de voir comment les distances physiques évoluent dans l'univers. Donc au moment du Big Bang, donc ici on a A en fonction de T, le temps en milliards d'années, et au moment du Big Bang on a A égale 0, donc les distances sont nulles. Et puis après, on normalise le facteur multiplicatif, évidemment, c'est A égale 1 à l'heure actuelle. Et puis après, on a une certaine évolution. Maintenant, cette évolution, elle va dépendre à la fois des paramètres de la composition de l'univers, donc la quantité de matière et la quantité d'énergie qu'on a à l'heure actuelle. Et donc ces quantités, elles sont normalisées par la densité critique, qui est la densité pour avoir un univers plat, donc c'est-à-dire que les rayons vont en ligne droite. Cette évolution, elle va aussi dépendre d'autres choses, elle va dépendre de l'équation d'état. Donc pour rappel, l'équation d'état qui vient d'être décrite, donc c'est P sur ρ c2, donc c'est-à-dire c'est le rapport entre la pression et la densité d'énergie de masse. Donc évidemment, comme on a de la matière qui est de la matière non relativiste, les mouvements sont faibles par rapport à la densité d'énergie de masse, l'énergie cinétique, donc on va avoir W égale 0, l'énergie cinétique est négligeable. Donc ensuite, si jamais on a le cas de l'énergie noire, on a W qui est égal à essentiellement moins 1, donc c'est-à-dire qu'on a une pression négative. Donc maintenant, on peut voir les différentes configurations. Donc dans le cas où on a oméga m égale 3, donc dans ce cas-là, on va avoir, c'est exactement comme vous prenez une pomme et que vous la lancez en l'air, et bien après, elle va retomber. Donc là, la même chose, l'univers va avoir une expansion, puis après, il va y avoir un big crunch. Ensuite, si jamais vous lancez avec oméga m égale 1, ça veut dire que vous lancez exactement à la vitesse de libération. Donc à la vitesse de libération, ça va ralentir pour tendre vers une constante, mais on ne va jamais retomber. Ensuite, le cas oméga m égale 0,3, le cas où on lance plus vite que la vitesse de libération, donc c'est-à-dire là, en l'occurrence, on va avoir un univers qui va s'étendre à l'infini. Donc on va avoir essentiellement, ici on avait un big crunch, ici on a un big chill, c'est-à-dire tout va se refroidir pour tendre vers le zéro absolu. Et ensuite, après, le cas où on ajoute de l'énergie noire, c'est le cas ici, on a une expansion accélérée. Et donc l'expansion accélérée on va aussi avoir un Big Chill. Donc, et de manière étrange, ben, en fait, l'univers qui est favorisé pour le moment pour les observations est autour de celui-là, c'est le modèle dit lambda CDM. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut changer l'équation d'état, puisqu'on ne connaît pas, si on suppose qu'on ne connaît pas la nature de l'énergie noire, ben, on peut changer l'équation d'état. Donc si on prend W égale 0 égale moins 0,8, un peu moins négatif que moins 1, on aura une phase d'accélération, mais un petit peu moindre. Et si on a W 0 plus négatif que moins 1, on va avoir une accélération plus importante. Et donc là, on va avoir le fameux Big Rip qui a été mentionné tout à l'heure. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'énergie noire, eh ben, c'est elle qui va comprendre la nature de l'énergie noire, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le futur de l'univers. Parce qu'on va avoir différents futurs en fonction de la nature de l'énergie noire. Mais malheureusement, on n'a pas accès, évidemment, au futur de l'univers. On a accès qu'au passé, qui est ici. Et donc, comme vous voyez ici, si on considère différents modèles, bien qu'ils soient très différents ici, différentes équations d'état conduisent à des facteurs d'échelle qui sont relativement similaires ici. Pour contraindre ça, on va utiliser essentiellement les distances au niveau homogène. Donc, la relation entre la distance et le redshift. Donc, la distance luminosité ici, la distance angulaire, et là aussi la distance angulaire pour les oscillations acoustiques baryoniques et pour le fond diffus cosmologique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les données de Planck, mais qu'on se met dans le cadre du modèle lambda CDM, donc c'est-à-dire vraiment on dit, bon, moi je connais la nature de l'énergie noire, et bien on va avoir des contraintes très très fines. Mais par contre, si on relâche un peu certaines hypothèses, donc ça peut être à plusieurs niveaux, mais là c'est au niveau de l'énergie noire, on va voir que ça va ouvrir un peu l'espace des paramètres, l'espace des possibles. Généralement, comme expliqué tout à l'heure, on utilise quand on ne sait pas la nature de l'énergie noire, de manière simple, on va utiliser simplement une équation d'état du type CPL, si c'est juste simplement une loi affine avec une équation d'état qui est W0 en maintenant et WA au moment du Big Bang, donc c'est-à-dire et une loi affine entre les deux qui dépend simplement de A. Et donc dans ce cadre-là, pour connaître la nature de l'équation d'état, on a ici dans le plan W0, WA, on voit que si on prend uniquement le fond diffus cosmologique Planck 2018, on voit que W0 est mal contraint, puisqu'il est entre moins 1.5 et moins 0.5, et WA est encore plus mal contraint. Donc on ne connaît pas la pente, la dépendance cosmologique de l'équation d'état de l'énergie noire. Donc ensuite, si on ajoute d'autres contraintes, comme les oscillations baryoniques acoustiques et les supernovas, on combine tout, on a des contraintes un peu meilleures. Donc par exemple ici, là, typiquement entre moins 0.5 et moins 0.9, la pente est encore assez mal contrainte. Donc tout ça pour dire qu'on va avoir du mal à vraiment contraindre la nature de l'énergie noire avec ça. Bien sûr, il va falloir raffiner les mesures, on va pouvoir réduire un petit peu, mais ce qu'il faudrait, c'est plutôt d'autres sondes pour l'énergie noire. Et ces sondes, on va les chercher dans le régime non linéaire de la formation des grandes structures. Donc ici, vous avez une frise avec le temps et l'espace. Donc comme vous avez déjà entendu, au début, on a un univers dense et quasiment homogène. Et puis après, on aura des petites fluctuations de densité. Donc l'univers va être en expansion. Il va se refroidir et aussi être moins dense. Mais il y a des petites fluctuations de densité qui, elles, vont être amplifiées par instabilité gravitationnelle pour former des amas, essentiellement des amas de matière noire qu'on appelle des halos de matière noire. Et ensuite, au sein de ces halos de matière noire, le gaz va tomber et se transformer se refroidir et se transformer en gaz de disque de gaz et en étoiles pour former des galaxies. Donc ça, c'est le processus hiérarchique de formation des grandes structures. Et on voit que les deux phénomènes, la formation des grandes structures et l'expansion accélérée de l'univers, qui est symbolisée ici, les deux phénomènes arrivent en même temps. Et donc, il va y avoir une influence de l'énergie noire, même si l'énergie noire elle joue un rôle à grande échelle, il va y avoir un rôle sur la formation des grandes structures. Si bien que les galaxies, par exemple, vont être un traceur pour comprendre la nature de l'énergie noire. Donc pour se convaincre que c'est le cas, eh bien en fait on peut faire un petit modèle simple où en fait on considère qu'on a des petites fluctuations sphériques. Alors on fait souvent des hypothèses sphériques en astrophysique. On suppose qu'on a une petite fluctuation sphérique, fluctuation de densité sphérique. Et donc comme on a une région qui est isolée dans l'univers et qui est sphérique et qui est plus dense que le reste, en fait, elle se comporte comme si c'était un univers avec une densité supérieure. Par exemple, si l'univers a une densité de matière oméga m égale 0,3, si vous avez une surdensité 10 fois plus forte, c'est comme un univers avec oméga m égale 3. Donc vous pouvez traiter ça exactement avec les mêmes équations que vous aviez tout à l'heure, si ce n'est qu'il faut les interpréter différemment. Et donc ce qu'on va avoir ici, c'est le facteur d'échelle, mais ici ce n'est pas le facteur d'échelle, c'est le rayon de la sphère qui s'effondre. Et donc le rayon de la sphère, on voit que si on prend une sphère qui est exactement à la densité de l'univers homogène, on va suivre, évidemment, c'est ce qui est en pointillé là, donc on va suivre l'expansion de l'univers, donc on va avoir une expansion accélérée. Mais si on prend une sphère qui est beaucoup plus dense que l'univers homogène, la gravité va l'emporter et ça va s'effondrer plus ou moins vite selon si la densité est plus ou moins forte. Et donc là, on voit ici une surdensité, par exemple, qui s'effondre juste maintenant, donc qui va former un amas, par exemple, ou une galaxie juste maintenant. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie noire, elle va jouer, si on peut faire le calcul, toujours à symétrie sphérique, et l'énergie noire, la quantité d'énergie noire, et même là, la nature de l'énergie noire, va jouer sur l'instant d'effondrement. Donc les structures vont se former plus ou moins tôt en fonction de la quantité d'énergie noire et en fonction de la nature de l'énergie noire. Et donc, ça c'est assez prometteur puisqu'on peut utiliser non plus seulement la relation entre la distance et le redshift, mais on peut utiliser la croissance des structures comme une sonde de l'énergie noire. Et donc, c'est pas des résultats, c'est des prospectives, des prédictions, une estimation de quelles vont être les contraintes du satellite Euclide qui va observer donc des milliards de avec 5 milliards de galaxies. Et donc en observant la distribution des galaxies et le lentillage gravitationnel, on va obtenir des contraintes de ce type en violet. Et donc là vous voyez que on devrait obtenir des contraintes de l'ordre de 10% à la fois sur W0 et aussi plus ou moins 0,4 sur WA. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup mieux contraindre, et sans compter qu'on peut aussi combiner aussi avec d'autres observables. Donc on devrait pouvoir contraindre mieux la nature de l'énergie noire. Donc là on pourrait se dire c'est fini, j'ai pu arrêter ma présentation et tout va bien, mais il y a toujours des subtilités. Donc le premier aspect que je voulais souligner, c'est que il y a plein de théories possibles pour la nature de l'énergie noire. Donc il y en a eu plein qui ont été déjà décrites dans la présentation précédente. Alors moi je les ai classées, mais c'est toujours un peu arbitraire la manière de les classifier. Simplement du plus simple au plus compliqué. La constante cosmologique lambda. Après, soit un fluide d'énergie noire. Ici, la gravité modifiée. Là, pour la gravité modifiée, peut être utile de rappeler le théorème de Lovelock qui permet une classification, mais on peut utiliser d'autres classifications. Le théorème de Lovelock nous dit que la théorie de la relativité générale est une théorie bien particulière puisque c'est la seule dimension, la seule théorie locale en dimension 4 avec des dérivés d'ordre 2 avec uniquement la métrique pour propager la gravité. Si on veut classifier ou si on veut briser, aller au-delà de la relativité générale, il va falloir briser une de ces hypothèses. Ça peut être de manière totalement indirecte, mais à la fin, ça va revenir essentiellement, probablement, à briser une de ces hypothèses. Donc soit des théories non locales, soit des théories avec des dimensions supérieures à 4 qui ont été évoquées, soit des théories avec des dérivés d'ordre supérieur à 2, soit des théories avec d'autres degrés de liberté, donc soit scalaires, donc théorie tenseur scalaire, soit vecteur, soit un autre degré de liberté, une autre métrique, donc modèle bimétrique par exemple. Donc ça, c'est juste une façon utile, enfin une façon parmi tant d'autres de classifier les théories. Et puis après, il y a aussi d'autres éventuellement la possibilité qu'on ait loupé des effets subtils de la relativité. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a déjà eu avant les vacances une présentation de par exemple des effets de Bach réaction. Donc ça, c'était pour vous faire peur. Je vois qu'il y en a qui ont eu peur. Ça a marché. On va surtout pas aller en détail là-dedans, mais c'était juste pour vous dire à la fin, voilà, qu'est-ce que vous donne. Donc ça, c'est juste pour un modèle. Comment dire, on est dans ce cas-là. Donc, ouais, l'intérêt des théories de tenseurs scalaires, c'est qu'en fait, il existe des ponts parfois entre les différentes théories et souvent, un certain nombre de cas, on peut réécrire certaines des théories comme, en première approximation au moins, des théories tenseurs scalaires. Et là, je vous montre simplement le Lagrangien. Donc, essentiellement, les théoriciens vous donnent quelque chose comme ça. Et donc, vous nous donne si essentiellement un Lagrangien. Et donc, ça, c'est le Lagrangien pour la théorie tenseur scalaire la plus générique, donc d'Eost. Et ensuite, après, s'ils sont gentils, ils vous donnent aussi directement les équations de champ. Donc, les équations de champ, ça veut dire quoi? Ça ressemble en gros à l'équation de Poisson. Donc, l'équation de Poisson, c'était Laplacien de phi égale 4 pi g rho. Donc là, c'est relié à rho plus d'autres termes. Avec ici, vous avez pi, c'est un champ scalaire. Donc là, le but, c'est pas de comprendre tout le détail, mais c'est juste de voir un peu ce que vous donnerait, par exemple, les théoriciens de leur côté. Donc ils vous donnent des équations aux dérivées partielles, et ils vous en donnent typiquement, dans ce cas-là, 3. Et donc les dérivées partielles sur l'équation type équation de Poisson, une équation sur psi, du type laplacien de psi. Donc Laplacien psi, ça c'est parce que psi, c'est le potentiel qui contrôle le mouvement des particules relativistes, en conjonction avec phi, les deux. Et ensuite, une équation surtout sur pi. Pi, c'est quoi? C'est le champ scalaire qui est justement ce qui représente votre théorie de votre champ scalaire pour la gravité modifiée. Donc ça peut être une équation qui peut être compliquée. Et donc là-dedans, ce qu'on ne connaît pas, c'est tous les coefficients. Donc C1, C2, etc. Et donc c'est ça, par exemple, qu'il faudrait déterminer. Donc certaines valeurs de ces coefficients correspondent à la relativité générale, d'autres à d'autres théories, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on a d'un côté par les théoriciens, et de l'autre côté, ça, c'est ce qu'on a par les observateurs. Donc du point de vue des observations, par exemple, ça, c'est une image de l'amas de Percé vue par Euclide. Donc ça, c'est une image, c'est un champ de 1 degré carré, typiquement. Et donc après, Euclide va observer, donc là-dedans il y a des dizaines de milliers de galaxies, bon il y a un amas de galaxies devant qui est joli, c'est pour ça que j'ai mis cette image, mais je veux dire, après même derrière il y en a plein de galaxies, des dizaines de milliers de galaxies, et ensuite Euclide va en observer des dizaines de milliers, 15 000 degrés carrés va observer Euclide, et à la fin il y aura 1,5 milliard de galaxies qui seront observées. Donc à la fin, les observateurs nous donnent plein de pixels, si vous voulez, plein de cartes. Voilà. Et donc maintenant, la question qui est pour vous, exercice. À partir de cette image, voilà, il faut essayer de trouver quelles sont, parmi les équations que je vous ai données tout à l'heure, quelle est la valeur des coefficients, quoi. Donc là, d'un côté, on a plein d'équations par des théoriciens, et de l'autre côté, on a plein d'images et plein d'informations, évidemment, hein, donc données par du côté des observateurs. Donc comment faire le pont entre les deux? Et c'est là où, en fait, soit on fait des modèles analytiques qui vont être très utiles pour avoir une bonne compréhension, mais ils reposent sur plein d'hypothèses. Par exemple, on va dire que tout est sphérique, ou peut-être au premier ordre, ou alors faire des approches perturbatives, etc. Donc ça va être très utile aussi pour valider les simulations, pour comprendre ce qui se passe dans les simulations. Mais par contre, ça ne va pas être très très précis pour passer de là à là. Et si on utilise des simulations, là on peut réussir à avoir des prédictions plus précises pour passer plus finement de là à là et donc donner des contraintes fortes. Donc voilà, donc j'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'avoir des simulations cosmologiques. Et donc maintenant on peut essayer de voir comment on fait des simulations cosmologiques. Alors donc le but, ça va être d'essayer de former d'étudier de prédire la formation des grandes structures. Donc pour prédire la formation des grandes structures, Là, je me place dans un contexte totalement différent en termes d'échelle de ce que Jonathan avait présenté au cours numéro 4, où lui, il s'était focalisé sur les galaxies, donc sur la matière noire, la physique baryonique, la physique des galaxies, à beaucoup plus petite échelle, alors que là, on va s'intéresser à la distribution des galaxies aux très grandes échelles. Donc, ce qui va dominer aux très grandes échelles, ça va être quoi? Ça va être la matière noire. Donc, la matière noire va essentiellement dominer, et le gaz, on peut supposer que le gaz suit à grande échelle la même dynamique que la matière noire, sans compter qu'en plus il est en quantité relativement faible. Et bien sûr, ça faudra le corriger si on va aux petites échelles, mais là on va se corriger aux échelles galactiques, mais là on va se concentrer sur les très grandes échelles. Donc ensuite, l'interaction qui domine, évidemment, ça va être la gravité. Mais donc en champ faible. Donc pourquoi en champ faible? Parce que donc là, si vous avez des trous noirs, au maximum vous avez des trous noirs supermassifs, mais le rayon de Schwarzschild d'un trou noir supermassif est bien plus petit qu'une galaxie. Et donc nous, là, ce qu'on veut, c'est étudier vraiment la distribution des galaxies aux échelles cosmologiques. Donc ensuite, aussi l'autre hypothèse, c'est que les particules sont non-relativistes, les galaxies, elles ne vont pas à la vitesse de la lumière. Donc là, on peut essentiellement appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc ce qu'on fait, c'est que, en fait, on fait le calcul dans le cadre de la relativité générale, et puis ensuite, après, on se met dans la limite en champ faible et avec des particules non-relativistes, et on trouve essentiellement le principe fondamental de la dynamique et la loi universelle de la gravitation, mais le tout dans un univers en expansion. Donc la chose dont on a besoin, c'est aussi de voir de bonnes conditions initiales, et justement grâce à l'observation du fond diffus cosmologique, on peut avoir des conditions initiales robustes. Ça fait qu'on a un problème bien posé, ce qui est toujours utile en physique. Là, comment ça marche? Donc là, si on a des particules, il va falloir calculer, si j'ai une particule ici, il faut que je calcule le champ gravitationnel créé par cette particule, par cette particule, par cette particule, par cette particule, et ensuite après, je veux aussi calculer le champ gravitationnel ici, donc je calcule toutes les interactions, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'à la fin, le nombre de calculs va être va être commensurable au nombre de paires que j'ai, donc typiquement en n carré, enfin n moins 1 sur 2, mais l'ordre de n carré. Il va y avoir un nombre important de calculs à faire. Et donc le principe là, c'est on génère des conditions initiales, et ensuite après on calcule le champ gravitationnel, et une fois qu'on a le champ gravitationnel, on connaît l'accélération. Comme on connaît l'accélération, on déplace les particules et on recommence, et ainsi de suite. Donc le principe de base est très simple. Donc après, on va avoir plusieurs problèmes que je vais lister, que j'ai identifiés là, mais on peut sans doute en trouver d'autres, mais au premier ordre. Donc le problème numéro un, c'est qu'on va avoir une boîte, un volume de simulation qui va changer au cours du temps. Donc là, il va falloir prendre ça en compte, du fait de l'expansion de l'univers. Le deuxième problème, c'est que si je simule une particule de matière noire égale une particule de simulation, donc là je dis une particule microscopique de matière noire égale une particule simulée, là on va avoir beaucoup trop de particules. Donc même si je prends des masses énormes, je suppose des masses très énormes de matière noire du type 1000 masses solaires, ce qui est vraiment énorme, dans le cas des trous noirs primordiaux, où c'est vraiment des masses élevées, le nombre total de particules va être de l'ordre de 10 puissance 20. Donc là ça va être beaucoup trop... un trop grand nombre de particules à simuler. Sans compter que le problème numéro 3, c'est qu'il faut calculer, non pas juste faire évoluer chaque particule comme ça, mais il faut calculer toutes les paires de particules. Donc le nombre de paires, ça va être plutôt 10 puissance 40. Donc là, on va avoir des simulations qui vont durer plus que l'âge de l'univers, donc ça ne va pas être très très utile. Le dernier problème, c'est le problème de la dynamique spatiale. On veut à la fois simuler la taille de l'univers, commensurable à la taille de l'univers, du type 10 puissance 10 années-lumière, et en même temps la taille des galaxies, c'est 10^4, 10^5 années-lumière, qu'on veut même peut-être résoudre un petit peu, mais au moins il faut résoudre ces échelles. Donc à la fin, on a une dynamique spatiale qui est vraiment très vaste. Donc maintenant, on va résoudre ces différents problèmes. Ils vont tenter de trouver des solutions. Donc le premier, c'est simplement, ce qu'on va faire, c'est que toutes les distances physiques, on va les diviser par A de t. Donc comme ça, si vous avez, admettons qu'il n'y ait pas de mouvement propre des particules dans votre simulation, il n'y a que l'expansion de l'univers, il n'y a que le flot de Hubble, eh bien, en fait, comme on vous avait divisé par A, en fait, toutes les particules ne vont pas bouger. Donc, en fait, ce que ça permet, c'est de découpler d'un côté l'expansion de l'univers qu'on connaît déjà à l'avance, le A de T, et de l'autre côté, des perturbations par rapport à l'univers, homogène. Et donc, ces perturbations, alors, comment on peut les découpler l'une de l'autre? Et donc, on utilise ces coordonnées s'appellent des coordonnées dites comobiles. Donc c'est parce qu'elles suivent le fluide, elles suivent le flow de Hubble. Donc ça c'est le premier aspect pour essayer de découpler l'aspect expansion globale de l'univers qui est vraiment trivial de l'aspect des mouvements des galaxies, par exemple des mouvements propres des galaxies ou des particules dans la simulation. Donc le deuxième problème que j'avais mentionné, c'est le fait qu'on a beaucoup trop de particules. Donc là, c'est un problème évidemment assez sévère. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas résoudre directement la dynamique n-corps pour toutes les particules de matière noire. Donc là, on se met dans le cadre du modèle standard où on a de la matière noire froide et on suppose la matière noire non collisionnelle. Donc s'il était il y a des contraintes sur les aspects de collisionnalité qui ont déjà été mentionnés, mais aussi, et puis aussi par ailleurs, si on avait des collisions, on aurait éventuellement du. On pourrait avoir peut-être voir la matière noire en termes de, avec du rayonnement. Donc là, on se met pour la matière noire dans le cadre du modèle standard de matière noire froide non collisionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, on peut utiliser le théorème de Liouville qui nous dit que si on se place dans l'espace des phases, donc c'est-à-dire l'espace des positions et des vitesses, on peut considérer un morceau, découper l'espace des phases en morceaux. Donc chaque morceau contient une collection de particules microscopiques. Et donc maintenant, on peut déplacer quand on laisse évoluer le système, en fait, le volume dans l'espace des phases ne change pas. Ce que ça veut dire, c'est que la densité dans l'espace des phases, ce qui s'appelle, c'est aussi la fonction de distribution, F, que vous avez peut-être vu en physique statistique, par exemple, eh bien, donc cette fonction est constante le long des trajectoires du système. Donc on peut considérer que ce morceau-là, on va l'appeler une particule. Mais c'est une particule au sens numérique du terme, ça correspond à une collection de petites particules microscopiques. Et donc c'est vraiment comme ce qu'on fait en physique statistique ou en hydrodynamique, où on va moyenner l'espace des phases. Donc une fois qu'on a ces gros nuages de particules, il faut connaître le potentiel. Le potentiel, on peut résoudre simplement l'équation de Poisson, mais en regardant non pas la densité elle-même, mais la fluctuation de densité par rapport, l'écart à la densité par rapport à la densité moyenne. Ça, c'est pour la matière noire. Et si on voulait traiter les baryons, on aurait pu faire la même chose, puisque ces équations, en fait, c'était les équations de Boltzmann sans collision, plus les équations de Poisson, c'est les équations de Vlasov-Poisson. Et si on prenait en compte les collisions, et on tenait en compte le fait que la fonction de distribution tend vers une gaussienne du fait des collisions, on pourrait traiter aussi l'aspect hydrodynamique. Mais là, pour le moment, on va se concentrer surtout sur la matière noire. Donc comment on traite ça après? On va simplement utiliser le principe fondamental de la dynamique. Et ce que ça va changer, c'est qu'on va traite des nuages de particules. Donc maintenant, ce que je vais appeler dans le futur particules, dans la suite de la présentation particules, ça représente en fait un nuage de particules microscopiques. Et ce que ça change, à grande distance, ça ne change pas grand-chose, puisque à grande distance, on peut juste considérer simplement le centre de masse de ces particules. Mais par contre, quand elles se croisent, il ne va pas y avoir de discontinuité, puisque si vous avez des particules ponctuelles, par exemple, ou même deux planètes ou deux étoiles qui passent très très proches l'une de l'autre, on a ce qui s'appelle une collision à deux corps, et comme la force elle est en 1 sur R2, le champ gravitationnel est en 1 sur R2, et bien en fait après, vous allez avoir un mouvement comme un mouvement de une rampe gravitationnelle et un mouvement très très rapide. Par contre là, en fait, chaque nuage contient plein de petites particules et c'est comme quand vous avez une collision entre deux galaxies, les étoiles elles-mêmes individuelles, elles se croisent mais elles se rencontrent pas. Donc finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire essentiellement saturer quand les nuages se croisent, ça va faire saturer la force gravitationnelle, le champ gravitationnel. Donc le plus dur qui va nous rester ici, ça va être essentiellement de calculer la force. Et donc ça, il existe différentes techniques. Une méthode de type arbre, où on essaye de regrouper là encore les particules, mais là les particules au sens numérique du terme, elles-mêmes par paquet, pour pouvoir, parce que si les particules, par exemple, si les particules sont, si on veut calculer l'interaction entre une particule et un groupe de particules, si le groupe de particules est très proche, on a besoin de connaître la position individuelle de toutes les petites particules. Mais s'il est très très loin, on n'a pas besoin de connaître en détail la forme du nuage, on peut se ramener simplement à son centre de masse. Et donc en organisant les particules sous forme d'arbres, eh bien on peut accélérer le calcul et quand quand les particules sont loin les unes des autres. Donc moi je vais plutôt m'attarder sur cette méthode parce qu'elle va être utilisée dans la suite. Donc là l'idée c'est comment on va faire pour calculer, pour résoudre l'équation. Eh bien, ce qu'on va faire c'est simplement on va distribuer, on a les particules, ici vous voyez vous avez des particules, on va introduire la notion de grille, donc c'est une méthode dite particule-maille, où on introduit une mèche en anglais, donc une grille, et donc maintenant, pour chaque particule, on va déposer la masse dans la grille, et on va calculer la densité, donc simplement vous comptez le nombre de particules, ici il y a 2, 0, on peut faire des méthodes plus avancées, mais c'est l'idée. Une fois que vous avez une carte de densité, vous pouvez résoudre l'équation de Poisson. Donc il y a deux approches, soit la méthode transformée de Fourier, que vous connaissez peut-être, par exemple dans le traitement du signal, c'est très utilisé, ou alors des méthodes itératives, donc des méthodes dites de relaxation, qui consistent essentiellement à remplacer la solution de l'équation de Poisson par la recherche d'une solution de l'équation de diffusion, mais de la recherche stationnaire de l'équation de diffusion. Donc en gros, on fait diffuser le potentiel jusqu'à ce que ça stabilise, et quand ça stabilise, on aura la solution à l'équation de Poisson. Une fois qu'on a le potentiel, on peut calculer son gradient, et donc après, on peut calculer l'accélération. Donc le dernier problème, et après, on pourra enfin passer aux applications, donc c'est l'aspect dynamique spatiale, puisqu'on veut à la fois avoir des très grandes échelles de l'univers, des échelles cosmiques, mais en même temps, l'échelle des galaxies. Donc ici, par exemple, c'est la carte de densité de matière noire pour deux galaxies qui sont en train de collisionner, mais on voit que la densité de matière noire. Et donc vous voyez ici que ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la résolution de la grille là où il y a plus de particules de matière noire. Donc là, vous voyez, on a plus de... Ça permet, comme là, les mouvements sont plus rapides et que souvent, ce qui nous intéresse, c'est quand même dans les zones les plus denses, eh bien ici, on va faire des grilles de plus en plus raffinées. Et par exemple, on va multiplier le nombre de grilles par 8, à chaque fois qu'on a, par exemple, 8 particules dans une cellule. On divise en 8. Donc comme ça, à la fin, le nombre de particules dans chaque cellule est toujours à peu près le même. Donc ça, c'est l'aspect adaptatif. Et puis après, l'autre aspect pour réussir à vraiment simuler des grands volumes, c'est l'aspect calcul intensif. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paralléliser le code, avoir des codes massivement parallèles. Et donc, on va répartir la charge de travail sur plein de cœurs de calcul. Et après, on va lancer ça dans les centres de calcul nationaux, par exemple le TGCC, le CINES ou l'IDRIS, et sur des nombres de processeurs de 10^3 à 10 puissance 5. Donc, grâce à tout ça, on peut essayer de voir comment évaluer le nombre de particules dans les simulations. Donc, en fait, du point de vue historique, ça a commencé même dans les années 40, où en fait, certaines personnes, donc Holmberg, a fait des simulations à la main en utilisant l'analogie entre le flux lumineux qui est en 1 sur R2 et le champ gravitationnel qui est en 1 sur R2. Donc, il avait des petites lampes qui représentaient disons des étoiles, et ensuite après, au lieu de faire la somme numériquement du champ gravitationnel, il faisait la somme du flux lumineux, donc c'est-à-dire il regardait le flux lumineux qui était reçu au niveau de chaque corps, et il bougeait à la main comme ça, donc bon, c'était un petit peu fastidieux, et donc, mais c'était voilà, les premières on va dire, simulations analogiques, on va dire, et dans les années 70, il y a eu les premières simulations numériques avec quelques centaines de corps, avec notamment Peebles. Et puis, alors, on voit qu'après, il y a une croissance exponentielle pour le nombre de particules, puisque là, c'est en logarithme. Hein. Et donc, on est passé de quelques centaines jusqu'à maintenant 10, 12 à 10, 13 particules. Ça a été même plus vite que la tendance exponentielle initiale, puisqu'on a fait des méthodes de plus en plus sophistiquées, puisque initialement, on faisait simplement la méthode PP, c'est-à-dire on calcule toutes les paires, et puis après des méthodes de plus en plus sophistiquées comme je vous ai décrites, qui permettent de gagner du temps de calcul. Donc grâce à tout ça, on peut simuler la formation des grandes structures. Donc là, on voit la formation d'un amas de galaxies, et on voit la carte de densité de matière noire, et on tourne autour, hein, c'est pas, la structure tourne pas, mais c'est nous qui tournons autour pour voir un peu l'aspect filamentaire. Donc vous voyez un peu tous les filaments, et vous voyez à l'intersection des filaments, il y a la matière noire qui tombe, et qui tombe dans les halos pour former des halos de matière noire, c'est ces groupes de particules de matière noire. Et on voit qu'on va des petites structures jusqu'aux grandes structures. Donc c'est la formation hiérarchique, c'est pour ça qu'on parle de scénario hiérarchique de formation des grandes structures. Et donc là, chaque nuage blanc ici, c'est là-dedans, ici il y en a, ça serait une galaxie, puisque tout ça c'est un amas de galaxies en fait. Donc tout ça, c'est, là-dedans il y a le gaz qui va tomber, puis former des disques et se transformer en étoiles. Donc ça c'était pour la cosmologie lambda-CDM. Et la dernière ingrédient qui nous manque, qui est la clé pour cette exposé, c'est comment introduire l'énergie noire. Donc là, là, c'était le cas standard où la densité d'énergie est constante dans l'espace et le temps, le cas lambda CDM. Mais maintenant, on peut aller au-delà. Donc soit ici, c'est le cas de l'énergie noire minimalement couplée, donc de type quintessence. Donc ce que ça va changer, c'est essentiellement l'expansion. Le taux d'expansion de l'univers aux grandes échelles, et aussi comme en fait la quintessence elle s'effondre, mais elle reste relativement homogène, elle reste homogène jusque à des échelles de quelques centaines de millions d'années-lumière. Donc ce que ça va changer, c'est essentiellement les conditions initiales vraiment aux très grandes échelles, mais donc surtout l'expansion globale de l'univers. À l'inverse, les théories de gravité modifiées qu'on va considérer ici, l'expansion va être similaire et les conditions initiales vont être similaires au cas lambda CDM, mais par contre c'est à petite échelle où là on va avoir des forces supplémentaires, des interactions supplémentaires et donc qu'il va falloir résoudre. Donc on peut noter quand même que les équations à résoudre, c'est des équations de Poisson mais qui sont non linéaires, donc la transformée de Fourier qu'on utilise habituellement ne marche pas, donc il faut utiliser d'autres techniques, et que évidemment les simulations sont plus lourdes en temps de calcul. Donc là, j'en ai fini pour la partie technique. Donc si vous avez survécu, vous êtes resté jusque-là. Maintenant, on va pouvoir passer aux applications. Donc, on va regarder maintenant des applications. Donc, on va regarder ici l'énergie noire. Et on va essayer de voir l'impact de l'énergie noire sur la formation des grandes structures grâce aux simulations que j'ai décrites précédemment. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, comme les simulations sont très lourdes en temps de calcul, on va sélectionner des modèles cosmologiques qui sont intéressants. Donc, en fait, on va présélectionner grâce, par exemple, aux fonds diffus cosmologiques et au diagramme de Hubble des supernovae. On peut présélectionner et, en gros, il va falloir prendre des modèles qui sont dans ces ellipses-là, par exemple. Donc, ici, c'est la densité de matière et ici, c'est l'équation d'état. Ici, on a considéré quatre modèles. Donc, le modèle lambda CDM avec W qui vaut moins 1. Après, un modèle rattrapables. Donc, ça, c'est un modèle de quintessence avec un potentiel dont la forme s'appelle rattrapables. Et donc, là, l'équation d'état est très largement supérieure à moins 1, comme vous pouvez voir. Après, SU, c'est un intermédiaire. Donc, c'est en fait avec un potentiel sous-gras. C'est inspiré par des corrections de supergravité. Donc là, l'équation d'état va être un peu intermédiaire. Et donc, attention, l'équation d'état, là, elle évolue au cours du temps. Voilà. Donc, ensuite, après, on voulait aussi couvrir l'autre côté, donc, c'est-à-dire couvrir de manière un peu agnostique tous les cas. Donc, sauf que, bah, évidemment, un modèle de quintessence, ça ne peut pas aller en dessous de W égale moins 1, comme ça a été discuté auparavant. Et donc ici, on a juste mis de manière effective une constante double, une équation d'état constante W égale moins 1.2. Donc, une fois qu'on a ces différents modèles, on peut voir du point de vue linéaire, pour le moment, c'est toujours pas la simulation, mais pour voir un petit peu, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer après dans la simulation. Donc, on fait un calcul linéaire et on regarde comment les fluctuations de densité croissent de manière à très grande échelle, donc de manière linéaire. Donc là, s'il n'y avait pas d'énergie noire, on aurait une croissance proportionnellement au facteur d'échelle. Donc les fluctuations, l'écart type des fluctuations dans des sphères de 8 mégaparsec sur H, en fait croîtrait proportionnellement au facteur d'échelle A. Maintenant on met de l'énergie noire, qu'est-ce qui se passe? Ça va saturer la croissance, vous voyez. Ici, il y a une inflexion ici. Donc ça, c'est le cas lambda CDM. Et si maintenant W est moins négatif, donc par exemple dans le cas de Chougra ou Rattrapables, on voit que l'effet commence plus tôt. Et donc comme après, il se cumule, bon, à la fin, on va avoir un effet cumulé qui va être plus important. Et donc, on va avoir une suppression plus importante des fluctuations de densité aux grandes échelles, aux échelles linéaires. Et le cas W égale moins 1.2, je ne l'ai pas dessiné, mais ce serait un peu au-dessus. Là. Donc maintenant, tout ça c'est bien, mais maintenant, on va voir ce que ça donne avec les simulations. Ici, c'est une carte de la densité à très grande échelle, donc 734 millions d'années-lumière, issue d'une simulation. Donc ici, on a colorié, en fait, il y a trois simulations. Donc il y a la cosmologie lambda CDM, la cosmologie, le modèle d'énergie noire sous gras, et Rattrapables. Et ici, c'est la densité de matière noire qui est montrée ici. Donc après, si vous faites du rouge plus du vert plus du bleu, ça va faire des images en noir et blanc, si tous les trois quantités sont équilibrées. Et c'est le cas, à grande échelle, on a quelque chose de plus quasiment noir et blanc. Si on regarde un peu le détail, ce n'est pas tout à fait noir et blanc, ce qui est normal, puisque juste avant, on avait vu qu'il y avait des différences. On voyait qu'il y avait une différence de 10% entre les différents modèles. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que si on zoome aux plus petites échelles, on voit que finalement, les différences sont amplifiées et sont amplifiées dans le régime non linéaire de la formation des grandes structures. Et donc, ça veut dire qu'on s'attend à trouver des signatures de la nature de l'énergie noire à toutes les échelles, même à des échelles petites. Alors tout ça, c'est très joli et c'est bien de le voir visuellement. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est quantifier ça de manière statistique. Donc on va utiliser l'outil, un des outils fétiches en astrophysique, qui est le spectre de puissance. Donc vous avez déjà vu plein de spectres de puissance du fond diffus cosmologique, notamment des fluctuations de température du fond diffus cosmologique. Et ici, on va regarder le spectre de puissance de la densité de matière. Donc si jamais on mettait des particules distribuées de manière complètement aléatoire, on aura un spectre de puissance un peu plat, un peu triste comme ça, il ne se passe rien. Ça c'est une carte de densité de matière noire issue d'une simulation. Donc vous voyez au contraire qu'il y a des valeurs qui sont non nulles et qui fluctuent. Donc le spectre de puissance donne la puissance à une échelle donnée et on note P en fonction de K. Et K, c'est l'inverse d'une échelle. Et donc là, les échelles, je les ai mises ici. Donc par exemple, là, c'est 10 puissance 7 années-lumière, 10 puissance 8, 10 puissance 9, 10 puissance 10 années-lumière. Et donc, on peut voir la puissance aux différentes échelles. Et donc, pourquoi on a un signal qui n'est pas plat comme ça? C'est grâce à la gravité. Puisque ce que ça veut dire, c'est que si on a des fluctuations à un endroit donné, elles sont corrélées aux fluctuations qu'il y a à d'autres endroits. Et qu'est-ce qui corrèle les choses à grande échelle? Ça va être essentiellement la gravité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le spectre de puissance des densités de matière va nous donner des informations sur la gravité, sur la nature de l'énergie noire, va nous donner des informations précieuses, mais donc, en tout cas, va caractériser le champ de densité. Donc maintenant, si on regarde le spectre de puissance, donc, la puissance en fonction de K, donc des différentes échelles là-haut, que j'ai remises là-haut, À très grande échelle, on retrouve le fait que lambda CDM est un peu au-dessus des autres, de Shugra et Rattrapables. Mais par contre, on voit que si on va à des échelles plus petites, eh bien, en fait, si on se rapproche par ici des échelles galactiques, ben, on voit que en fait, l'effet il est amplifié, puisque ici, la différence est beaucoup plus grande qu'ici, puisque là, on est en échelle logarithmique. Donc, ça veut dire que c'est vraiment l'effet qu'on voyait tout à l'heure à l'œil nu, c'est-à-dire que l'effet il est amplifié aux petites échelles. Donc, on peut espérer trouver, on a une signature ici de la nature de l'énergie noire vers les échelles plus petites. Donc, comme on veut aller vers les échelles plus petites, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe au niveau des halos de matière noire. Et donc là, on va essayer de... L'idée, c'est de calculer la fonction de masse des halos de matière noire. Donc, on va détecter les halos de matière noire. Donc, il y a plein de méthodes. Mais donc là, j'en décris juste une qui s'appelle AMI d'AMI, ou Friends of Friends en anglais. Donc, c'est une méthode de percolation qui consiste à chercher dans une petite sphère toutes les particules. On prend une toute petite sphère et on cherche toutes les particules qui sont voisines d'une particule. Et puis après, toutes ces nouvelles particules qui sont voisines de la première particule, on cherche les voisins des voisins, puis les voisins des voisins des voisins des voisins, etc. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, on va heurter le vide, il n'y aura plus de particules. Donc tout ce groupe de particules, tous les voisins voisins des voisins, on les appelle, donc, ou les amis d'amis, on appelle ça un groupe de particules de matière noire. Et donc ici, on a un groupe de particules de matière noire, on en a un autre, etc. Et après, on peut trier... On peut calculer la masse de ces groupes de matière noire, de ces halos de matière noire, donc. Et on peut calculer le nombre. Ici, par exemple, il y a 9 petits, il y en a 4 moyens, ceux-là, et puis un gros. Et donc, cet histogramme-là, qui donne le nombre par bin logarithmique de masse, et aussi par unité de volume, bah, c'est ce qu'on appelle la fonction de masse des halos de matière noire. Et donc maintenant, on peut essayer de voir et on s'attend à avoir une signature et donc de pouvoir la prédire assez précisément grâce aux simulations. Donc ici, on a la fonction de masse, donc c'est-à-dire le nombre d'amas par bin logarithmique de masse et par unité de volume, en fonction de la masse. Et ici, vous voyez, ça c'est la masse des amas de galaxies, par exemple, puis là, c'est la masse plutôt d'une masse type Voie lactée. Et donc ici, il y a lambda CDM, Shugra et Rattrapables avec les couleurs, et ça c'est z égale 0, c'est maintenant, on va regarder ces courbes. Donc là on voit qu'il y a beaucoup plus de petits halos que de gros halos, et aussi on voit que il y a une signature de l'énergie noire qui est beaucoup plus grande vers les amas de galaxies, puisque en plus la fonction de masse est plus raide, donc les effets vont être encore plus forts, et donc ici on a même quasiment un facteur 10, donc on peut espérer distinguer ces modèles grâce en comptant le nombre d'amas. Donc on peut aller encore plus aux échelles plus non linéaires et donc aux échelles plus petites. Donc on peut maintenant regarder le profil de densité dans un amas de galaxies. Donc on peut définir des coquilles à différents rayons comme ça, et on va calculer la masse dans cette coquille là on va calculer la masse de matière noire divisée par le volume de la coquille, puis après la masse dans cette coquille divisée par le volume, etc. Et on va tracer. Donc là, on va obtenir des profils qui ressemblent un peu à ça, donc la densité en fonction du rayon. Et les profils, on va les caractériser par la concentration. Donc ici, vous voyez que ce halo bleu, il est plus concentré que ce halo... bleu, il est plus concentré que celui-là parce qu'il y a plus de masse au centre. Et puis là, au contraire, il y a moins de masse au centre. Donc on dit que le halo, il est moins concentré. Et donc ce qui est intéressant, c'est maintenant de voir ce qui se passe ici. C'est qu'en fait, on a une dépendance qui d'ailleurs est non triviale. On a une variation de la concentration en fonction de la quantité d'énergie noire et même un peu en fonction de la nature de l'énergie noire. Donc là, en fait, je suis en train de vous amener petit à petit, mais à des échelles de plus en plus petites. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, alors qu'on a modifié simplement que l'expansion globale de l'univers aux grandes échelles, eh bien finalement, de fil en aiguille, de proche en proche, eh bien en fait, ça, l'effet cascade sur des échelles de plus en plus petites, et on arrive même à avoir des effets de l'énergie noire au cœur des halos de matière noire. Et donc, par exemple, ce que ça veut dire tout ça, c'est que finalement, les halos de matière noire sont un peu comme des fossiles pour l'histoire passée de formation des grandes structures, et donc des fossiles pour essayer de déterminer la nature de l'énergie noire. Donc ça, c'est pour l'aspect pour l'aspect énergie noire. Et donc maintenant, on peut passer, dans le temps qui me reste, sur la gravité modifiée. Et donc, on va faire exactement le même exercice, mais avec un modèle simple de gravité modifiée qui s'appelle F2R, qui a déjà été décrit. Et donc là, l'idée du modèle F2R, c'est de dire que, en fait, tout part du fait que la relativité générale peut être déduite d'une action qui s'appelle l'action de Einstein-Hilbert, et donc qui s'écrit comme ça, et donc qui dépend du Ricci. Et le Ricci, c'est la courbure, c'est lié à la courbure de l'espace-temps, donc du Ricci et de la constante cosmologique. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait généraliser ça et dire bah, peut-être que l'action la plus générale, et bien en fait, c'est une fonction générale de R, que là, on a écrit sous la forme R plus F de R. Et donc, on va essayer de choisir une fonction F de R, on peut choisir ce qu'on veut, mais on va choisir quand même une fonction qui a des bonnes propriétés, par exemple la forme de Ueshaviki qui est de ce type. Et donc ce qu'on veut, c'est que on ait un phénomène d'écrantage, en l'occurrence qu'on veut retrouver dans le fameux écrantage de caméléon. Donc on veut essayer de retrouver la relativité générale dans les régions les plus denses pour être en accord avec les contraintes du système solaire et aussi pour retrouver le fond diffus cosmologique. Donc on veut que cette fonction-là, on veut simplement qu'elle tende vers moins 2 lambda, ce F de R, pour retrouver ce cas-là, aux grandes courbures, donc aux grandes densités. Donc le paramètre principal dans cette théorie F de R, ça va être FR0, qui va donner l'intensité, c'est un nombre négatif, qui va donner l'intensité de la déviation à la relativité générale. Donc voilà, donc on a un modèle de gravité modifié caractérisé par FR0. Et maintenant, on va voir l'impact sur le spectre de puissance. Donc, on a le spectre de puissance, toujours P en fonction de K, et on a différentes spectres de puissance. Et donc, si jamais FR0, la valeur absolue de FR0 est plus grande, donc par exemple 10-4, ici, on voit que le spectre, il est au-dessus, il est amplifié, puisqu'on a un champ scalaire qui va amplifier la gravité. Et comme il va amplifier la gravité, après, ça va amplifier... ça va augmenter la structuration de la matière et ça va augmenter le spectre de puissance. Donc maintenant, si on fait le rapport entre le spectre de puissance F de R divisé par celui lambda CDM, on voit qu'on a une amplification d'un facteur qui peut aller jusqu'à 1,3. Bon, après, ces modèles sont déjà exclus, mais qui peut atteindre des facteurs de l'ordre de 20%, 10-20%, et donc qui pourrait être observable avec les futurs relevés comme Euclide. Donc on peut faire la même chose de regarder l'amplification de la fonction de masse, donc la fonction de masse de combien elle était amplifiée par rapport à lambda CDM, donc la fonction de masse F de R divisée par celle lambda CDM. Donc au niveau des galaxies, on voit qu'on a une amplification faible. Par exemple, si on prend ce cas-là en orange, on a une amplification faible mais qui augmente et qui peut atteindre au niveau des groupes 20%. Et normalement, on s'attendrait à ce que ça continue à augmenter, puisque la fonction de masse est très pentue à grande masse, et donc la variation de la fonction de masse va être très importante. Mais on a dit tout à l'heure qu'on veut un phénomène d'écrantage. Donc dans les amas les plus massifs, là à 10-15 masses solaires, la densité est tellement forte qu'on va retrouver la relativité générale. Donc comme on retrouve la relativité générale, la fonction de masse aussi converge vers la relativité générale, et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc c'est pour ça qu'on a une forme non triviale, une déviation à la relativité générale qui est non triviale. Et donc enfin, le dernière chose, c'est on peut aller encore toujours voir le profil de densité. Alors là, attention, il a été multiplié par R carré dans cet article. Donc c'est R carré fois rho en fonction de R. Et donc ça, c'est le cas F de R. Et ça, c'est le cas lambda CDM. Et on voit que le profil est plus piqué dans le cas F de R. Donc maintenant, si on résume ce qu'on a vu, mais au moins sur tout du moins le spectre de l'amplification, si on essaie de résumer un peu tout ce que j'ai dit, donc grâce aux simulations, on a considéré différents modèles de gravité modifiée et d'énergie noire. On a considéré l'amplification du spectre de puissance et ici en haut et de la fonction de masse. Et donc là, je mets pour différentes équations d'état ou différents FR0, je mets la signature qu'on trouve. Et vous voyez que le spectre de puissance, il y a une signature très différente, puisque là, on a déjà différent aux grandes échelles, et puis ça continue. Et puis, alors que là, le spectre de puissance, il est identique aux grandes échelles, puisque les grandes échelles, c'est de ce côté. Et aux petites échelles, on a une amplification dans le cas de la gravité modifiée. Et puis pour la fonction de masse, vous voyez qu'il y a une forme différente, parce que là, ça s'amplifie puisque la fonction de masse a une plus grande pente, alors que là, en fait, on a une signature qui est non triviale du fait des phénomènes d'écrantage. Maintenant, en ouverture, juste quelques sujets que je passe rapidement dans les 3 minutes. Quelques sujets de recherche actuels. Par exemple, un des aspects, c'est qu'une simulation, c'est très très lourd. Donc c'est des millions d'heures de calcul, par exemple. Donc en fait, on ne veut surtout pas en faire beaucoup. Donc ce qu'il faut, et on veut en même temps explorer l'espace de tous les modèles d'énergie noire possibles. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire ce qu'on appelle un émulateur, qui est basé sur les techniques, qui s'inspire un peu des techniques de machine learning. Et donc on va paver l'espace de paramètres, on va se faire que quelques simulations, et entre ces simulations, on va interpoler. Alors attention, parce que là, nous, on a un espace à plein de dimensions, multidimensionnel, il va falloir interpoler, et en utilisant des méthodes avancées, on peut obtenir des précisions de quelques pourcents, quelques millisecondes, donc ça, c'est assez prometteur. Le deuxième sujet que je voulais mentionner, c'est un peu une question philosophique, qui est quel est le lien entre l'univers réel et l'univers observé. On va pas répondre du point de vue philosophique, puisqu'il me reste que deux minutes, mais on va utiliser plutôt l'aspect physique. Donc là, l'idée, c'est en fait de placer un observateur au centre de la simulation et de lancer des milliards de rayons entre toutes les sources possibles dans la simulation et l'observateur. Et donc comme ça, on va recréer vraiment l'univers tel qu'il est vraiment perçu par l'observateur, puisque les rayons sont défléchis par la gravité. C'est ce qui forme les lentilles gravitationnelles. Et donc avec ça, on va pouvoir réussir à mesurer de manière très très précise au sein des simulations les effets que les gens capturent habituellement, mais même d'autres effets qui sont parfois négligés. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est un sujet de recherche pour aller plus loin, mais chacun nécessiterait une longue présentation. Là, ça a déjà été discuté dans la présentation notamment de Jonathan de cours 4 sur les simulations avec toute la physique baryonique. Là, quand on va plonger vers les échelles galactiques, ça va jouer un rôle vraiment majeur. Ce qui peut être intéressant qui est peu étudié à l'heure actuelle, c'est de faire des simulations pour différents modèles de gravité modifiés et en même temps, ou différents modèles d'énergie noire, et en même temps avec toute la physique baryonique. Donc c'est un domaine très actif de recherche. Et enfin, bien sûr, faire le lien avec les présentations suivantes, bien sûr, il faudra faire le lien entre les différentes signatures qu'on a pu trouver pour l'énergie noire et pour la gravité modifiée pour essayer de trouver ces signatures pour Euclide et pour les autres sondages relevés à venir. En conclusion, on a pu voir qu'il y avait de nombreuses théories. Il y avait vraiment un nombre incroyable de théories pour expliquer la nature de l'énergie noire. Et de l'autre côté, on va être aussi noyé par une avalanche de données, par les observations. D'où l'importance d'avoir un cadre interprétatif solide via les simulations cosmologiques. On a pu montrer qu'il y a des techniques avancées de simulation et qui permettent d'obtenir maintenant explorer un grand nombre de modèles, puisque les simulations sont rapides, soit simuler des grands nombres de particules pour avoir une grande gamme, une grande dynamique spatiale. Et on a pu voir qu'il y avait différentes signatures grâce aux simulations, mais on peut les mesurer de manière très précise. Donc signature, impact de l'énergie noire qui cascade des grandes échelles aux petites échelles, et la gravité modifiée qui a un impact plutôt sur les échelles intermédiaires et puis les petites échelles, mais qui a des signatures du fait des phénomènes d'écrantage, ça fait des signatures bien spécifiques. Et donc après, j'ai pu vous ouvrir, montrer quelques ouvertures. Et bien sûr, je vous invite à suivre les autres conférences sur Euclide et autres perspectives la semaine prochaine. Donc merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.